Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'amyotrophie spinale infantile, ou SMA infantile, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Christian Cottet, qui est papa de Marie-Lise, une jeune femme maintenant, qui est atteinte d'amyotrophie spinale, et directeur général de la FM Téléthon. M. Cottet, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Cottet, alors on a dit votre fille est touchée par l'amyotrophie spinale. Comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie et comment est-ce qu'elle a été diagnostiquée?
Eh bien, Marie-Lise est née en 1983, sans qu'il y ait de problème particulier décelable à la naissance. Elle s'est mise debout plutôt précocement, puisque à 12 mois, elle se tenait bien debout et elle a commencé à marcher. Et c'est au moment où elle a fait ses premiers pas que nous avons vu qu'il y avait quelque chose d'anormal, puisque elle marchait, oui, mais elle marchait avec une démarche instable, avec de nombreuses chutes et un périmètre de marche assez limité. Et en fait, ce sont ces signes-là qui nous ont alertés. Nous avons eu un parcours diagnostique, on va dire, d'une durée moyenne par rapport à d'autres familles qui ont eu une errance diagnostique assez longue. Évidemment, le diagnostic n'a pas été posé immédiatement, mais il a été posé lorsque Marie-Lise avait 20 mois, amyotrophie spinale infantile, et on parlait donc de type 3, puisqu'elle avait été capable de faire ses premiers pas. Elle a marché un petit peu avec cette marche limitée pendant quelques années. Et Marie-Lise a perdu la capacité de marcher et donc de se tenir debout lorsqu'elle avait entre 8 et 9 ans, avec un passage d'abord à un tricycle électrique et puis après au fauteuil roulant. Mais j'ai envie de dire que dans cette maladie qui est une maladie gravissime, notre chance a été que pour Marie-Lise, c'est une forme un petit peu intermédiaire, comme je viens de l'évoquer, ce qui nous a permis d'avoir une organisation familiale, une vie, je dirais, la plus active possible. Marie-Lise a fait ses études à l'école de la République, à l'école ordinaire. Elle a pu faire des études supérieures. Elle a pu passer un doctorat. Et aujourd'hui, Marie-Lise est mariée. Elle est chercheuse en géographie.
Alors ça, c'était il y a quelques années, il y a déjà presque 35 ans, le diagnostic. Qu'est-ce qui a changé en 35 ans?
Énormément de choses. J'ai envie de dire, c'est une véritable révolution. Il y a 35 ans, lorsque le diagnostic a été posé pour notre fille, on nous a dit maladie incurable. On savait à cette époque-là que c'était une maladie génétique. On en connaissait le mode de transmission. Il faut que les parents soient porteurs du gène. Mais comme il est récessif, les parents sont porteurs sains. Et c'est lors de la fécondation qu'il y a dans un couple qui a ce statut génétique, un risque sur quatre d'une naissance avec la maladie. Et donc, maladie incurable, on nous a proposé une prise en charge palliative avec des soins kinés, un petit peu de prise en charge respiratoire, et puis c'est tout. Aujourd'hui, les mêmes couples à qui on annonce le diagnostic, on leur dit toujours que c'est une maladie gravissime, mais on leur dit il y a des options thérapeutiques, il y en a trois, et nous allons choisir avec vous la meilleure, la plus adaptée à la situation de votre enfant. Il faut imaginer ce changement de paradigme, de passer d'une maladie incurable est mortelle dans la plupart des situations, notre fille ayant eu la chance d'être atteinte d'une forme plus modérée, à cette situation d'aujourd'hui où on parle de traitement, on propose des traitements en même temps que l'on pose le diagnostic de l'enfant. C'est un changement considérable. Alors, évidemment, pour arriver à ce changement-là, il y a eu des recherches très importantes qui ont été conduites. Il y a eu l'identification du gène responsable de la maladie. Il y a eu la compréhension de son mécanisme génétique, la découverte de cette protéine qui est nécessaire à la survie du motoneurone, et c'est cette absence de protéine lorsque l'enfant porte la double mutation sur le gène causal de la maladie. C'est cette double mutation qui fait que l'absence de protéine a pour conséquence une mort prématurée du motoneurone, et c'est ainsi que les muscles périphériques s'affaiblissent parce qu'ils ne reçoivent plus l'influx nerveux via le motoneurone depuis le système nerveux central. Tout ceci a pu être décrypté et transformé en application thérapeutique au cours de ces 35 ans.
Alors, vous êtes aujourd'hui le directeur général de l'AFM Téléthon. Quel rôle a eu l'association, l'AFM Téléthon, dans cette évolution et comment est-ce qu'elle a été actrice de ce changement?
Depuis le premier Téléthon, et ça fait 35 ans aussi, l'histoire de l'amyotrophie spinale à l'intérieur de l'AFM Téléthon se confond aussi avec l'histoire de l'association. Lorsque le diagnostic de ma fille a été posé, c'est à la fin de 1986 que j'ai pris contact avec l'AFM Téléthon et j'ai participé à la construction à l'intérieur de l'AFM de ce que nous appelons un groupe d'intérêt par pathologie et donc j'ai participé à la création du groupe d'intérêt hémiatrophie spinale. À la fin des années 80, l'AFM a organisé des rassemblements de familles permettant d'une part aux familles de partager leur expérience du vécu avec la maladie, mais également ça nous a permis ça a permis à l'association de collecter les échantillons biologiques, les échantillons de sang de tous, parents, enfants, grands-parents s'ils participaient à ces rassemblements, la fratrie, etc., pour fournir aux chercheurs qui en avaient besoin les échantillons biologiques. Et c'est entre 1990 et 1995 qu'un laboratoire de l'INSERM, installé et financé par l'AFM Téléthon, a réussi l'identification du gène dit SMN1, le gène causal de la maladie. La maladie était identifiée, ça a permis d'en comprendre le mécanisme que j'évoquais il y a quelques instants, et à partir de là, le travail d'investigation a pu commencer. En parallèle de ça, Généthon, notre laboratoire Généthon, créé par l'AFM Téléthon, avait publié entre 1990 et 1992 les cartes du génome humain, les premières cartes du génome humain, qui ont également permis d'accélérer l'identification du gène. Je disais que c'était en 95. Et à partir de là, à partir de ces éléments de connaissance génétique, la compréhension du mécanisme a permis d'avancer sur des thérapeutique, et comme je l'évoquais tout à l'heure, on dispose aujourd'hui de trois thérapeutiques qui sont trois thérapies qui jouent sur le mécanisme génétique. Ces trois thérapeutiques ont pour conséquence la refabrication de cette protéine qui est nécessaire à la survie du motoneurone. Et au-delà de ces découvertes fondamentales, l'AFM a investi environ 70 millions d'euros au cours de ces 30 années dans les recherches sur la hémiatrophie spinale. C'est notre laboratoire Généthon, donc le laboratoire du Téléthon, le laboratoire financé par l'AFM, qui a mis au point, à ses premiers stades, la thérapie génique de la hémiatrophie spinale, qui a ensuite pu être développée cliniquement et qui est aujourd'hui mise à disposition des malades dans le monde entier. Ces trois thérapeutiques qui changent le destin de ces enfants, qui sauvent des vies, l'AFM Téléthon y a été, et pour beaucoup, à la fois dans les travaux de recherche fondamentale pour comprendre le mécanisme de la maladie, identifier le gène, mais également acteur direct de la mise au point des thérapeutiques en ce qui concerne la thérapie génique.
Et aujourd'hui, donc, quelles sont les perspectives et les enjeux à venir pour l'AFM Téléthon dans cette maladie ?
Je suis très fier de tout ce qui a pu être fait et en même temps, j'éprouve une certaine frustration. Pourquoi ? Parce que malgré l'existence de ces trois thérapeutiques, aujourd'hui encore, des enfants en France ne sont pas traités. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent après un parcours diagnostique qui a pu être plus ou moins long. Au niveau d'un centre expert, d'un centre de référence pour les maladies neuromusculaires, dans un certain nombre de cas, les symptômes sont trop aggravés, la maladie est trop installée pour que l'on puisse attendre un effet thérapeutique significatif, quel que soit le traitement utilisé. Il faut encore préciser que dans cette maladie, il y a des formes très sévères, c'est ce qu'on appelle le type 1. Ça concerne environ 60% de ces enfants. C'est une forme qui s'installe très rapidement, parfois dès la naissance, parfois après quelques mois de vie. Et ces enfants-là, s'ils ne sont pas traités, ils meurent en général avant 24 mois, la plupart du temps par détresse respiratoire. Ça concerne 60% des enfants qui naissent en France atteints d'hémiatrophie spinale, sachant qu'il y a entre 100 et 110 enfants chaque année qui naissent atteints de l'hémiatrophie spinale dans ces différentes formes plus ou moins sévères. Et malheureusement, en gros, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, parmi ces enfants atteints de la forme la plus sévère, presque 1 sur 2 arrive trop tard au diagnostic pour qu'ils puissent bénéficier de ces traitements qui sont des vrais traitements de rupture. Donc en fait, il y a deux conséquences. Il y a ceux atteints de la forme sévère et environ une petite moitié d'entre eux ne sont toujours pas traités à cause de la rapidité d'installation de maladie et du diagnostic trop tardif. Et pour l'ensemble des autres enfants, qu'ils soient de la forme sévère ou des formes plus modérées qui sont traités aujourd'hui, ben ils sont traités sur une maladie installée. Et si les traitements qui existent permettent de figer la maladie, d'arrêter son évolution, ils ne permettent pas de réverser les symptômes. Et donc, la seule façon de sortir de cette difficulté, c'est de dépister cette maladie dès la naissance, dans ce qu'on appelle un dépistage néonatal, comme il existe en France un programme de santé publique de dépistage néonatal, il faut absolument intégrer l'amyotrophie spinale dans les maladies qui sont dépistées à la naissance, et ce qui permettra de la traiter au bout de quelques semaines. L'objectif, c'est de la traiter avant un mois de vie, avant que les symptômes ne sont installés. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats, puisque les trois thérapeutiques que j'ai évoquées sont d'autant plus efficaces qu'elles sont appliquées précocement. Et leur meilleure fenêtre d'efficacité thérapeutique, c'est de traiter avant l'apparition des symptômes. Nous lançons en collaboration avec la filière de santé des maladies neuromusculaires, FILNEMUS, les CHU de Strasbourg et de Bordeaux, un programme préfigurateur de ce dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale qui va démarrer cet été dans les deux grandes régions, Nouvelle-Aquitaine autour de Bordeaux et Grand Est autour de Strasbourg. Dans ces deux régions, à partir de la fin de l'été, on va dépister à la naissance l'amyotrophie spinale de façon à pouvoir traiter les bébés très vite. Et dans ces conditions-là, on va pouvoir faire exprimer aux traitements qui sont disponibles leur meilleure potentialité. Et tous les cas cliniques qui ont pu être traités dans ces conditions ont montré que ce sont des enfants qui se développent, qui font les acquisitions quasiment d'un enfant normal. Et donc, c'est comme si la maladie ne les avait pas atteints. Donc, c'est la seule façon aujourd'hui de sortir de cette situation qui reste quelque part non acceptable, de bébés qui ne sont pas traités car diagnostiqués trop tardivement alors que des traitements existent.
Eh bien, merci mille fois, Monsieur Côté, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître cette maladie rare qu'est l'ASMA infantile. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou sur notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite!